Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, disons que la campagne, la mairie de Montréal a pris une tournure avec les déclarations de Balarama Holness, pardon, qui veut faire un référendum sur le statut linguistique de la ville de Montréal. Et si vous tendez un peu l'oreille sur ce qui se passe dans les médias anglophones, la communauté anglophone, il a un certain écho. Et en un mot, ce qui parle, c'est Montréal a besoin peut-être d'une forme de rébellion pour chasser le pouvoir blanc traditionnel. Luc, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce qu'il a raison d'abord de vouloir changer le statut de la ville?
Bon, évidemment qu'il n'a pas raison, puis qu'il comprend rien, comme dans la plupart des dossiers. C'est un gars qui ne fait pas de recherche, qui impose ses idées en espérant que... Et qui les impose en disant « le temps est venu de changer les choses », mais des fois... en répétant ce qui se fait déjà. Donc, il connaît, dans beaucoup de dossiers, il est pas là, on en reparlera. Et dans le dossier de la langue, vraisemblablement, il a pas fait de recherche. Mais il nous donne une bonne leçon, par exemple. Il a pas fait de recherche parce qu'il s'est pas rendu compte que pendant des années, les francophones étaient majoritaires à Montréal, mais devaient tous apprendre l'anglais pour travailler. Tu pouvais, à shop même, tu parlais à ton foreman en anglais. Dans les magasins, tu parlais en anglais. 85% de francophones, mais tu devais parler anglais. Puis c'est ça qui a été changé par la loi 101. Et de dire, ben c'est une ville, dorénavant, francophone. Pourquoi francophone? Parce que la majorité de la population est francophone. Pas parce qu'on a choisi une boîte, ça va être français, ça va être anglais. Non, parce que la majorité de la population était francophone. Là, il se passe une chose. Il se passe que il s'est passé plusieurs coups d'alerte pour la langue française. Mais un des coups d'alerte, c'est que la population de langue française maternelle est passée à 49%, donc sous 50%. Et il y a 19% d'anglophones langue maternelle, et puis 29% d'allophones qui choisissent soit le français, soit l'anglais, mais qui parlent à la maison une autre langue que le français ou l'anglais. Balarama Holness, il y a un point. Ce qu'il nous dit, là, c'est vous, pendant des années, vous étiez majoritaire puis vous parlez français. Là, allez pas vous imaginer que vous allez devenir minoritaire puis qu'on va tous parler français. C'est ça qu'il nous dit. De facto, c'est une ville qui est de moins en moins française. Alors, abandonnons le statut de la langue française. De facto, il nous met devant notre échec. Alors, réveillons-nous.
Réveillons-nous! Mon Dieu, gros slogan ce matin. Ben, tout d'abord, utiliser le mot rébellion là, comme slogan de campagne... J'avoue que ça fait peur. Évidemment, je partage ton point de vue, Luc, sur le fait que Montréal ne peut pas être décrété ville bilingue. Ça tiendrait pas la route, compte tenu du statut de la métropole. Mais en même temps, on peut pas nier que la ville de Montréal, c'est une ville cosmopolite. Puis il y a des anglophones, puis il y a des immigrants qui parlent des dizaines et des dizaines de langues différentes à Montréal. Ce qui est intéressant, c'est que sa candidature arrive au moment où la CAQ dépose le projet de loi 96 pour amender la loi 101. Et il y a des anglophones qui sont extrêmement frustrés qu'on s'en prenne à eux parce que c'est comme ça qu'ils le vivent. Et évidemment, le discours d'un Balarama Holness a un écho auprès de tous ces gens. Mais quand j'ai dit ça, il y a quand même quelque chose, selon moi, pour moi, qui a résonné dans son discours. Parce qu'il, lui, il dit, c'est l'enjeu lié à l'intégration. Il dit, l'enjeu pour lui de l'intégration passe par le fait qu'on puisse s'exprimer dans notre langue. C'est ce qu'il dit essentiellement. Et moi, ça me parle. Lorsqu'il dit, on n'est pas accepté dans le cadre démocratique à Montréal, si vous ne voulez pas m'accepter, moi, je vais aller plus loin. Il y a une espèce de cri du cœur derrière ça. Le cri du cœur, c'est de dire, ben, il y a encore des populations, trop de Noirs, par exemple, à Montréal, qui sont exclus. Je voyais des données là, statistiques. Là. Le revenu, l'écart entre le revenu d'un homme noir et d'un homme blanc à Montréal, c'est 16 000 $. Les hommes noirs à Montréal gagnent en moyenne moins qu'un homme blanc à Montréal. Même chose pour les femmes. Le taux de chômage est deux fois plus élevé chez les personnes noires à Montréal que la moyenne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et lui, ce qu'il dit, c'est que le cadre dans lequel on est appelé évoluer dans notre ville fait en sorte qu'il y a encore trop d'excuses. Puis je trouve que c'est un discours qu'il ne faut pas minimiser.
Non, c'est vrai que c'est un discours qui est réel. Tu sais, ça vient de la frustration d'un homme réel qui habite réellement à Montréal. Donc, c'est pas... Effectivement, ça existe, cette frustration-là. Mais est-ce que lui, il est la meilleure personne pour la canaliser puis trouver des solutions? Moi, je pense que non. Quand il y a la première déclaration qu'il a fait sur la nécessité d'avoir un référendum...
Il y a personne
référendum.
Qui le fait actuellement, Luc.
Ouais, mais oui, c'est parce qu'il y a un constat politique au provincial et au fédéral, c'est jamais arrivé avant, où tous les politiciens reconnaissent que la langue française est en danger. Donc, il n'y a personne qui dit « Oui, le problème en ce moment, c'est que l'anglais est en danger. » D'ailleurs, avec la présentation du président d'Air Canada à la Chambre de commerce, unilingue, tu sais, il s'en va pas faire un discours unilingue français, là.
C'est
unilingue anglais. Réveillez-vous, là. C'est pas le français, c'est pas l'anglais qui est en danger, là. Tout le monde va devoir... avaler la couleuvre d'écouter ce gars-là en anglais seulement. Tout le monde, les 2000 personnes qui vont être là, qui sont 80% de francophones, vont devoir avaler la couleuvre. C'est pas dans l'autre sens, la couleuvre.
Mais lui, il pourrait se forcer, là.
Oui, je sais, mais c'est bien, ça témoigne de quelque chose. L'embauche de la présidente de la caisse de la Banque Laurentienne qui parle pas français. Il y en a des exemples. 60% des employeurs qui demandent l'anglais comme langue de travail, comme condition d'embauche. Les exemples pullulent. Quand il est arrivé, Ramon Nice, puis il a dit, faut changer ça. C'est-tu ce qu'il a dit? Il a dit, lorsque je prendrai le pouvoir, une de mes premières actions sera de changer le statut de la langue française à Montréal.
Ben, il veut faire de Montréal une ville bilingue.
Oui, mais il n'avait rien compris. C'est plus tard qu'il a compris qu'il fallait demander à Québec, puis qu'il s'est dit, je vais faire une consultation. Mais c'est ce genre de gars-là, tu sais, qui comprend rien. C'est quoi la part? Tu sais, il dit, les francophones, les blancs francophones ont trop de pouvoir au Québec. C'est quoi la part des blancs francophones dans son équipe? Sur 40 candidats, il y en a 4 blancs francophones. C'est tous des anglophones ou issus des minorités ethniques. Je comprends bien qu'il veut changer le monde. C'est correct.
Oui.
Mais tu peux pas juste dire les francophones, les 50% de francophones n'existent pas. Tu peux pas dire ça.
En fait, il peut pas se positionner comme il le fait sur l'échiquier politique très, très à gauche, le candidat très radical. Lorsqu'il parle d'oppression des minorités, tu dis OK, oui, c'est difficile, évidemment, pour la communauté noire, entre autres à Montréal-Nord. On voit les jeunes qui se promènent de 14-15 ans avec une arme à la main. Ça tient pas la route.
Mais en même temps,
faut relativiser les choses. L'oppression des minorités, je veux dire, on n'est pas dans le Mississippi, là, ici. À Montréal, d'une part. D'autre part, en même temps, moi, je dis, faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, on peut condamner, évidemment, sa prise de position pour faire de Montréal une ville bilingue, mais en même temps, il y a quand même un message qu'il envoie à Ramon Nice, en disant, il faut s'occuper de cette minorité ou de ces minorités qui souffrent
Absolument.
Et qui ne se sentent pas
Absolument.
Mais
et qui sont exclus, en fait.
Ce qui me frappe aussi, je regarde les deux autres candidats, M. Coderre, Mme Plante, t'sais, les deux là sont pas les fervents défenseurs de la loi sur la laïcité. Les deux sont les fervents défenseurs, disons, d'une application très rigide de la loi 101, c'est-à-dire qu'ils veulent défendre le français.
Mais ils peuvent pas, Paul.
Mais à cause de leur clientèle, c'est sûr.
Mais à cause de Montréal.
Mais Montréal et le Québec, c'est deux affaires.
Exactement.
Oui, c'est ça. Mais il y a sur 103, c'est ça, c'est 103 conseillers qui sont élus à l'hôtel de ville. Dans l'équipe de Valérie Plante, il y a 51 personnes issues des minorités ethniques ou linguistiques. Dans l'équipe de Coderre, à peu près pareil, un peu moins 48, je pense, quelque chose comme ça. On n'est pas à la case zéro, là. On n'est pas à la case zéro. Des efforts énormes ont été consentis. Et c'est pour ça que moi, quand Balamor Alnès arrive puis il dit que lui, c'est lui qui arrive avec la solution puis que le reste, ce sont des racistes, ce sont des gens qui comprennent pas, des oppresseurs. C'est là qu'il est jamais à la bonne place. Puis avez-vous lu le post sur Facebook de Marc-Antoine Desjardins ce matin? Il est tellement amer. Il dit, ce gars-là trahit toutes les personnes avec qui il travaille. Mmh. Il n'y a que lui. Il m'a trahi. Quand on voulait faire une entente francophone-anglophone en disant, OK, on va se donner la main, mais on va trouver une autre la solution. Les gens avant la politique, c'était ça le slogan. Il m'a trahi, il m'a mis un couteau dans le dos. Mais il a commencé par me dire, viens avec moi, on va arranger ça. Puis le lendemain, il a fait une déclaration.
Mais clairement, Honest a manqué l'occasion. Effectivement, manqué une occasion d'incarner cette troisième voie que beaucoup de Montréalais cherchent en ce moment, parce que qu'on le veuille ou non, en quelques jours du scrutin, il y a encore énormément d'indécis.
Oui.
Beaucoup d'indécis. Alors, j'ai bien hâte de voir dimanche soir à quoi le résultat à Montréal va ressembler.
Parfait. Au retour, le gouvernement de François Legault qui souhaite faire appel à plus d'immigrants sur une base temporaire. Évidemment, on parle ici des problèmes de main-d'œuvre. Est-ce que c'est un changement de cap, une stratégie comptable? Ou encore, vraiment, là, une nouvelle vocation du côté de la CAQ.
La commission Normando-Ferrandaise.
On se souvient que le gouvernement de François Legault voulait réduire le nombre d'immigrants. Mais là, on a décidé d'aller chercher des immigrants temporaires pour combler les problèmes de main-d'œuvre, les nombreux postes de travail qui sont vacants. Alors, est-ce que c'est un changement de stratégie du gouvernement, Nathalie?
Bien, c'est perçu comme ça parce qu'on n'a pas senti depuis octobre 2018, depuis l'élection du gouvernement de la CAQ, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme pour l'immigration au Québec. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit le premier ministre sur l'immigration. En fait, oui, peut-être. Il a dit deux choses. Essentiellement, il a dit moins d'immigrants, mais il faut en prendre soin, rappelez-vous. Puis il a parlé du fameux 56 000 $ Un immigrant qui gagne moins de 56 000, le premier ministre dit, on a un problème. Là, ce qui est intéressant, c'est que en août dernier, le gouvernement de la CAQ a signé une entente avec Ottawa pour rendre la vie plus facile aux employeurs qui embauchent les immigrants temporaires, pour aux immigrants temporaires qui viennent ici au Québec. Les immigrants temporaires, c'est qui? Essentiellement, c'est des travailleurs de l'agriculture, là, les Guatémaltèques, les Mexicains là, qui franchissent la frontière, qui viennent nous donner un coup de main dans nos champs, mais c'est aussi des étudiants internationaux, entre autres. Alors, le gouvernement a dit aujourd'hui, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre, ben il faut ouvrir les goussets, comme on dit, là, il faut déplafonner le seuil, et aussi, il faut leur rendre la vie plus facile, sans grande surprise. Il y a bien des formulaires à remplir là avant d'être accueilli comme employé temporaire. Puis je regardais statistiquement, là, ça représente quoi? Là? Parce que pour faire les choses simples, là, il y a à peu près, là, grosso modo, là, en 2014-2018, 13 384 travailleurs temporaires là, qui vont dans les champs, qui ont été accueillis au Québec. En 2019, il y en a eu un peu plus, 23 300. Demain matin, si on ferme la porte à ce genre d'immigration, oubliez ça, là. Les fraises puis les petites fèves là dans les champs là, il y a des gens, il y a des travailleurs, des employeurs plutôt qui vont avoir d'énormes problèmes. C'est une main d'œuvre qu'on embauche à faible salaire. On parle de salaire là, écoute, dans certains cas en bas du salaire minimum là. Alors on a vraiment besoin d'avoir accès à cette main d'œuvre et moi je salue cette décision de la CAQ de simplifier le processus et d'en accueillir davantage également.
En 2019, il y en a eu 30 000. Hein? Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2020 à cause de la pandémie, là, mais 2019, il y a 30 000. Là-dedans, il y a effectivement ceux qui gagnent moins de 23 $ de l'heure qui sont considérés à bas salaire. Puis il y a ceux en haut de 23 $ de l'heure. Pour le changement concret qui va se faire, c'est ceux qui sont de moins de 23 $ de l'heure. Il y a 71 métiers pour lesquels il va enlever des éléments de paperasse, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être plus que 20 % dans la même shop. Avant, c'était pas le cas. Et puis, dans d'autres secteurs, ça va être de 10 à 20 % puis il y a des professions qui vont être exigées des exigences d'exigence. Voyons, c'est ce que j'ai mangé le matin. D'exigences d'affichage.
Parce que... Ça fait des bons bloopers, ça, mon cher Luc.
Ah, ouais,
ça fait des bons bloopers.
Bon. Ben, les exigences d'affichage, c'est lorsqu'un employeur, ça avait commencé sous Harper, lorsqu'un employeur voulait aller chercher un employé à l'extérieur, il devait démontrer qu'il n'y en avait pas dans le coin. Fait qu'il fallait qu'il fasse trois affichages à trois endroits différents. Et ça va être retiré. Bon. Là, je suis bien content pour les travailleurs puis pour leurs employeurs, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des conséquences à cette affaire-là. La première, évidemment, c'est le logement. Je pense que pour les employés spécialisés, bon, 80% des immigrants, 85% des immigrants viennent à Montréal. Dans les employés spécialisés, c'est immigrants qu'on va chercher spécifiquement pour occuper un poste, encore plus à Montréal. Ce sont des agences qui leur trouvent leur logement la plupart du temps. Les agences sont capables de payer entre 2 et 4 000 $ pour un beau logement. Ils vont sur le terrain, là, puis ils vont chercher des logements. Des expulsions, en veux-tu, en v'là. Des logements qui disparaissent pour la classe moyenne, en veux-tu, en v'là. Alors, si tu règles pas le problème de logement, puis tu fais rentrer 30 000 personnes, ça va pas s'améliorer, là.
Non, attends une minute, Luc, là. Tu fais pas rentrer 30 000 personnes. La plupart de... Parce qu'il y a des étudiants... Il y a trois catégories dans ces employés temporaires, là. Mais la plupart des travailleurs, tu l'as dit, oui, sont placés par des agences, mais également les producteurs agricoles, ils logent leurs travailleurs.
Oui, ça, c'est pour les 23 $ et moins. Je sais pas c'est quoi la part du 30 000 qui est dans les 23 $
et moins.
Moi,
ce que j'ai su, c'est que les travailleurs agricoles représentent 80 % de...
Des 23 $ et moins.
Bon, alors, effectivement. Ouais. Fait que peut-être que l'enjeu du logement se pose avec un peu moins d'acuité à ce moment-là.
Par contre, là où tu lèves un point, moi, j'ai jasé avec un restaurateur qui me disait,
oui,
on fait jamais appel à la main-d'œuvre étrangère, ou très rarement, mais là, j'ai des postes un peu plus que le salaire minimum, puis je trouve pas preneur, tu sais. Mm-hmm. Et il dit, je peux aller chercher des gens à l'étranger qui viendraient, ben, j'y prendrais.
C'est clair, mais c'est la
on
solution.
On élargit l'assiette, là.
Oui, exactement.
Je sais bien qu'on a de besoin, là. Je sais. Mais il y a des conséquences. Par exemple, il y a pas de test de français sur ces gens-là. On vient de parler du français tantôt. Il y en a pas de test de français. Pendez-vous pas pourquoi on est passé de 85 % à 49 %.
Mais c'est
là,
des employés temporaires, Luc. C'est...
Je sais. Une fois que t'es temporaire, ben, ça, c'est le bon point, le beau côté du programme. C'est que, oui. L'immigration officielle, donc le statut de résident permanent, puis après ça immigrant, vient de plus en plus chercher dans les anciens employés temporaires. Et c'est très bien, parce que les gens qui sont là, les employés temporaires, ils ont découvert le pays, ils savent s'ils aiment ça ou s'ils aiment pas ça, s'ils vont être capables de s'adapter, donc, puis ils ont un emploi. Et donc, c'est très bien que ce canal-là se fasse du travailleur temporaire vers l'immigrant permanent, mais aussi, il faut voir que c'est devenu la porte d'entrée principale.
Ouais, mais tu parles de restaurateurs. Là. Moi, j'en connais à Québec qui n'ont eu d'autre choix que de se tourner vers l'Europe pour les serveurs, entre autres. Mais quand tu parles de caissier, d'entretien ménager, de manœuvre en métallurgie, de manœuvre en transformation de poisson, il y a des postes, oui, qui vont commander la maîtrise du français, puis d'autres moins, tu sais, manœuvre de transformation de poisson dans une usine. C'est pas comme être caissière dans une épicerie. Mais clairement, compte tenu de la rareté de la main-d'œuvre au Québec, ça devient une option fort intéressante pour des employeurs. L'immigration temporaire, parlez-en aux boulangers, aux pâtissiers, les boulangeries.
Oui.
Si ce n'était de cette immigration, de ces travailleurs temporaires, il y a bien des boulangeries au Québec qui ne pourraient pas fonctionner. Oui, boulangerie de quartier ou pas, là, ça ne fonctionnerait pas.
Puis on se régale, alors on est content.
Et on se régale, effectivement. Chocolatine, croissant, déjeuner, oui. Effectivement, ça va bien. Non, mais puis en passant, c'est pas une nouveauté. Là. Je voyais des données statistiques du ministère de l'Immigration depuis 2005. Ça fait des années, là, des décennies, que le gouvernement du Québec, de concert avec le gouvernement du Canada, accueille des immigrants dits, des travailleurs dits temporaires. Mais là, leur importance prend une autre dimension aujourd'hui.
Mais Nathalie, toi, tu te désolais l'autre fois de voir qu'il y avait encore 300 000 chômeurs minimum.
Oui, absolument.
300 000 emplois de personnes de moins qui travaillaient qu'avant la pandémie, malgré la crise de la main-d'œuvre. Je me pose tout le temps la question, c'est quoi le secret de la formation? Il va falloir demander à M. Boulet, ministre du Travail, pour qu'on puisse au moins en requalifier une partie. Mmh. Pas tous, mais une partie. Parce que là, c'est facile. Les employeurs vont à l'étranger, ils font eux-mêmes leur sélection d'employés, ils les ramènent, sont formés, sont déjà bons, clink-clang. Mais pour une société, il y a 2-3 affaires qu'on pourrait faire. Première chose, changer un peu le solde migratoire du Québec avec le Canada, il s'est beaucoup amélioré, mais avoir des Québécois qui reviennent, parce qu'ici, dorénavant, il y a de l'emploi, des gens qui sont partis dans le reste du Canada, c'est bien parce qu'ils parlent déjà le français, puis c'est ça qu'on veut. Ou alors des Canadiens bilingues, puis c'est ça qu'on veut aussi. Une des premières choses. Deuxième chose, l'âge de la retraite de 62 est à 62 ans en moyenne. Est-ce qu'il peut être tiré un petit peu? 63, 64, c'est une autre façon.
Attends, objection, votre honneur, là-dessus. Là, beaucoup de gens vont te dire qu'on arrête de nous imposer le temps supplémentaire qu'on fait après 62 ans. La réponse des spécialistes, c'est de dire on ne peut pas faire ça parce qu'il y a une question d'équité entre les générations. Mais ne pourrions-nous pas, sur le plan fiscal, faire davantage pour que ce soit un incitatif et non pas un désincitatif à aller travailler après 62 ans? Genre d'affaires de même, mon cher Luc, effectivement. Je suis d'accord avec toi.
On s'arrête là-dessus.
Merci.
Vous n'êtes pas des travailleurs temporaires. Vous n'avez pas payé de statut ici quand même. C'est bon.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.